Pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Le 30 janvier 2024, des agriculteurs proches de la FDSEA ont bloqué les offices français de la biodiversité à Dijon et à Montbard, en Bourgogne. L'un d'eux explique ses griefs envers ces établissements dans une vidéo postée sur la page YouTube de Dijon Actualité.
Ça fait bientôt une semaine qu'on est entré en mobilisation dans le département. Aujourd'hui, on a plusieurs points de blocage qui tiennent. Alors, au-delà de toutes nos revendications sur le revenu, qui est une des principales causes de la colère, une des autres causes, c'est toute cette accumulation de réglementations, de surtransposition de normes environnementales et tous les contrôles qui en découlent. Et aujourd'hui, il y a une administration en particulier qui vient nous faire des contrôles et qui aime bien être tatillonne et qui aime bien, on va dire les mots, nous emmerder sur certains contrôles, c'est l'OFB. Donc on a décidé de cibler les deux sites à la fois Dijon et à la fois Montbard. Donc ces deux opérations se mènent simultanément pour dénoncer leur comportement quand ils viennent en contrôle armé et qu'ils nous prennent de haut et leur rappeler que l'administration, même si elle est là pour nous contrôler, elle peut être aussi au service des agriculteurs et être un peu plus dans la pédagogie.
Le 18 novembre 2024, les agriculteurs en colère ont aussi muré l'Office français de la biodiversité de l'Oise à Beauvais et déversé sur l'établissement des bennes de pneus et de fumier. Le 21 janvier 2025, le secrétaire général de la Coordination Rurale, un autre syndicat agricole au discours proche de l'extrême droite, a appelé ses adhérents à brûler les voitures de l'OFB qui entreraient sur leur exploitation, rapporte Le Monde. Alors, c'est quoi exactement l'OFB ? Et cet office mérite-t-il ce torrent de haine qui a culminé le 21 mars dernier où est apparue sur Internet une vidéo diffusée par le syndicat Jeunes Agriculteurs, cette fois, qui sous couvert d'humour mettait en scène la mort d'un agent de l'OFB. On y voyait quelqu'un jouant le rôle d'un agent de l'OFB, renommé OCB pour Office du complot de la biodiversité. Et cet agent était menacé à coups de pelle, puis enterré. Si on en croit son site, donc, l'OFB, c'est un établissement public dédié à la protection et la restauration de la biodiversité. Ces agents sont chargés de missions de police de l'environnement. Ils recherchent et constatent les actes de pêche, de chasse sur l'eau et la nature interdits par la loi. Ils sont assermentés et autorisés à porter une arme. En gros, ils sont chargés de faire respecter les normes environnementales, au besoin par la force, ce qui n'arrive ou n'arrivait pratiquement jamais. Un rapport de l'inspection générale du ministère de l'Agriculture cité par le même journal Le Monde établit en effet que seulement 0,045% des contrôles effectués par l'OFB depuis sa création sont conflictuels. La montée de la violence, conjuguée à une campagne de désinformation qui vise cet office, ont cependant conduit Stéphane Regazzoni à quitter son emploi. Il nous raconte tout de suite des années acharnées à essayer de défendre le climat dans un contexte de plus en plus tendu. Un récit conduit par Johan Guillouzouic.
Stéphane Regazzoni, j'ai 50 ans. J'habite dans le Dessoubre, une petite vallée entre les plateaux de 700 mètres à 900 mètres d'altitude, là dans le Doubs. Mes parents ont habité à côté d'un agent de l'Office national de la chasse à l'époque. J'étais fasciné par ce garde, par ce qu'il faisait. C'est quelqu'un qui était passionné d'environnement et qui allait à l'époque surveiller les rapaces. Il restait quelques nids de faucons pèlerins pour tout le département. Et ces gens-là veillaient presque jour et nuit. Et ces missions me paraissaient tellement importantes déjà à l'époque que c'est lui qui m'a donné cette idée. Et j'ai tout fait pour arriver à mes fins. Et quand je suis sorti de troisième, j'ai commencé par faire un BEPA, polyculture élevage à Danemarie. Nos agriculteurs sont tous formés là-bas. Voilà, j'ai passé le concours en 90. Et j'ai été agent de l'Office national de la chasse à l'époque en 91. Aujourd'hui, c'est l'Office français de la biodiversité. On est entre 10 et 15 par département. Les missions, c'est à peu près en moyenne, je pense, 70% de missions de police. Ça pouvait être la chasse, la pêche, la pollution de l'eau, par exemple, et tout ce qui concerne l'environnement. Mon boulot était d'aller voir les contrôler les chasseurs en pleine action, voir s'ils n'avaient pas des chevrotines dans le fusil quand on n'a que le droit de tirer du gibier à balles, etc. Ou s'ils étaient bien, en théorie on n'a pas le droit de chasser en voiture, et bien voir s'ils étaient bien allés au poste à pied, s'ils ne couraient pas après les animaux avec leur véhicule, quoi. Voilà, c'était ça. Mais de plus en plus, l'Office français s'est orienté sur des espèces plus rares. Et de plus en plus, on nous a dit, mais là où il n'y a pas d'enjeu, laissez tomber. N'allez plus contrôler un chasseur qui chasse ses sangliers. À la rigueur, ses sangliers, qu'il les tue en voiture, qu'il les tue avec des chevrotines, ou bien qu'il ne les tue pas, il n'y a pas beaucoup d'enjeux. En revanche, allez voir ce qui se passe tout au bord de l'eau, parce qu'on sait que si au bord de l'eau, tout crève, eh bien, la chaîne alimentaire va s'en trouver impactée. Et les gros enjeux, eh bien, c'est vraiment l'eau et la biodiversité. À la base de cette chaîne alimentaire, il y a des petits papillons, il y a des moustiques, il y a des petites mouches, il y a tout un tas d'insectes qui disparaissent. Si on les élimine, eux, vous enlevez l'insectivore, vous enlevez celui qui mange l'insectivore, donc vous enlevez le prédateur, et à la fin, le plus grand des prédateurs, vous enlèverez l'homme. La biomasse des insectes, c'est pas qu'en France, c'est dans le monde, a diminué de 80% en 25 ans, ce qui est énorme. Mais il faut aussi comprendre dans la biodiversité le monde végétal. En France, il y a la police qui bosse dans les grandes villes, les gendarmes bossent dans les villages, et puis nous, eh ben, on bossait dans la nature. Concrètement, le travail, alors, quand on constatait une pollution dans nos rivières, soit parce qu'il y avait des poissons qui mouraient, on pouvait la constater parce que l'eau avait une coloration bizarre, on pouvait la constater parce qu'on nous avait dit, bah tiens, ça sent les hydrocarbures ou ça sent mauvais à tel endroit, eh bien là, notre mission était de relever par procès-verbal, trouver une origine, trouver un coupable, et puis le transmettre à la justice. En matière de constatation des infractions aux atteintes de l'environnement, jusque, je pense, dans les années 90-2000, on avait besoin d'aller dans la nature, crapahuter, on avait besoin d'avoir des agents de renseignement, on avait besoin de voir du monde pour savoir ce qui se passait. Et depuis ces années-là, avec les réseaux sociaux notamment, la téléphonie, les déplacements, etc., eh bien, en fait, l'information, elle arrive très très facilement, parce que aujourd'hui quelqu'un qui passe au bord de la rivière elle est toute rouge, toute jaune, et bien aussitôt il a son téléphone, il prend une photo et puis il envoie ça sur tous les réseaux sociaux, on est très vite au courant de ce qui se passe. C'était le 19 ou le 20 mai 2020, l'année du Covid, hein. On nous envoie un petit message, il y a une pelleteuse qui est en train d'arracher des haies sur la commune de Guyenveyne. À l'époque, le responsable d'établissement nous avait dit pas de mission de terrain parce qu'on est en plein confinement et il faut que les agents de l'État montrent l'exemple. Donc restez chez vous, faites du télétravail. Puis au bout d'un moment, on s'est aperçu que, parce que c'est quand même un monde où ça bosse quand même pas mal. Alors, au bout d'un moment, on a quand même eu l'autorisation d'aller faire au moins les constats sur le terrain. Parce que, eh ben, y avait des haies qui étaient supprimées, des tas de cailloux qui étaient arasés, etc. Dans une région où on a une production d'un fromage qui marche du feu de Dieu, on parle du comté, bien sûr. Le problème, c'est que les méthodes pour faire plus d'herbe, donc pour faire plus de lait, pour faire plus de comté, on va fertiliser plus, on va éliminer quelques bouts de haies, quelques buissons, quelques tas de cailloux, quelques murs, pour pouvoir passer avec nos matériels agricoles modernes. Et c'est dramatique pour notre environnement, parce que quand on enlève les haies, quand on enlève les tas de cailloux, c'est l'habitat des oiseaux, des insectivores, enfin c'est l'habitat de toute notre biodiversité qui disparaît. Donc je pars à Guyenveyne, je trouve cette pelleteuse et je stationne mon véhicule au bord d'une route. Et puis j'ai tout juste eu le temps de descendre de ma voiture que un gars à vélo débarque derrière moi. Je ne connaissais cette personne ni d'Ève ni d'Adam, en me disant « Mais qu'est-ce que vous venez faire là? Vous êtes chez moi, faut foutre le camp. » J'ai dit, écoutez, non, je viens juste faire un constat et je viens voir ce qui se passe là autour de ces haies. Il y a une pelleteuse qui est en train d'arracher des haies. Je viens constater. Foutez le camp, vous êtes chez moi. Alors, il me pousse une fois, je recule. Il me repousse une fois, je recule encore. Et puis, en plein Covid, on n'avait jamais autant parlé de postillons, et puis de distance, et puis de masque. Mais moi, comme j'étais tout seul, j'avais même pas mon masque en plus, donc j'étais déjà un petit peu en défaut de ce côté-là. Cette personne, tellement excitée, commençait à crier vraiment fort. Et malgré le fait de lui avoir dit « Mais gardez vos distances, on est en confinement, j'ai pas de masque, on doit garder nos distances », mais lui, il était tellement fou furieux de me voir là, il m'a rentré dedans. Il est venu, il m'a poussé au thorax. J'ai reculé plusieurs fois, mais au bout d'un moment, je recule plus, quoi. Moi, ça va bien une fois, deux fois, mais non, stop. Alors, poussé, à force de se faire bousculer comme ça, on est arrivé au bord de ma voiture. Il a voulu s'engouffrer dans ma voiture. Je ne sais pas pour quelle raison. Je ne sais pas ce qu'il a voulu aller piquer dans ma voiture ou faire dans ma voiture. En tout cas, il a commencé à s'engouffrer dans ma voiture. Et là, donc, j'ai vu rouge. Je l'ai attrapé par le callback, comme on dit. J'ai sorti Manu Militari de la voiture. Et puis, dans le geste, je l'ai plaqué au sol. Dieu merci, il était moins fort que moi et j'ai réussi à le foutre par terre, à le mettre au sol, à lui foutre sans doute une bonne trouille aussi parce que peut-être qu'il ne s'attendait pas à ça, et puis à le maîtriser, quoi. Il a repris ses esprits et puis je crois que je lui ai demandé de rester assis. Puis je crois qu'il avait dû comprendre mes intentions à ce moment-là, donc il a commencé à m'obéir à ce moment-là. On a commencé à discuter. Moi, la première chose qui m'intéresse, c'est de savoir, mais qui est mon interlocuteur? Qui êtes-vous? Présentez-vous? Pas de réponse. Donc, un petit peu coincé. Donc, j'appelle les gendarmes qui, avec chance, ce jour-là, n'étaient pas très, très loin. Donc, sont arrivés dans les 10 minutes. Sauf qu'il est arrivé deux jeunes gendarmes qui connaissaient le gars, l'individu, pas mieux que moi. Et qui ont dû appeler leur contact pour avoir l'identité du personnage. Mais le personnage a eu bien du mal de m'en dire plus sur le pourquoi il a arraché ses haies, est-ce qu'il était chez lui, à qui était la pelleteuse, etc. Enfin, c'est des renseignements qu'on demande habituellement. Donc les gendarmes sont restés un moment avec moi, mais comme ils ont vu que la situation devenait un peu plus calme, eux sont partis, et puis moi j'ai continué de converser gentiment avec la personne. J'en ai pas obtenu vraiment ce que je voulais, mais au moins j'ai réussi à solutionner un petit peu mon affaire, savoir qui il était, où il habitait, qu'il était bien le propriétaire des lieux. C'était son fils, je crois, qui était même propriétaire de la pelleteuse. Il arrachait des haies qui le gênaient, mais comme nombreux agriculteurs le faisaient à l'époque. C'était un agriculteur en zone comtée, avec des vaches laitières, comme bien d'autres, mais qui s'était un peu emporté à la vue de l'uniforme gris comme on porte, qui avait vu rouge un peu. On a un habit vert ou gris, mais là, il avait plutôt vu rouge. Mais on l'a revu plus tard, parce qu'on doit entendre les gens dans un local de police. Le local de police était notre bureau. Et donc, il est venu. Il a accepté de venir être entendu pour son audition dans notre local de police à Versailles. Et ça s'est très très bien passé d'ailleurs. Il s'était bien calmé. Bon, il nous a encore raconté ce qu'il avait envie de nous raconter, mais ça c'est autre chose. Et puis moi j'ai réussi quand même en insistant un petit peu à avoir quelques éléments, à avoir ce qu'il me fallait pour constater mon infraction, pour faire ma procédure pénale. La procédure pénale a été construite et transmise au procureur de la République. Et en parallèle, alors moi, je n'ai pas voulu déposer plainte parce que, certes, moi, j'avais fait aussi usage d'un peu de violence pour maîtriser mon citoyen, là. Mais mon établissement, en mon nom, a déposé plainte, bien sûr, pour violence. Il a été condamné pour ces violences, mais il ne l'a pas été pour les destructions de l'habitat. Moi, j'aurais préféré que ce soit l'inverse, parce que c'était mon but et c'était ce qui m'importait le plus. J'aurais préféré que les atteintes à l'habitat soient condamnées et soient punies. Par contre, on a toujours de la frustration quand on est quand même porteur des insignes de l'État, porteur d'un uniforme, et se faire chahuter, se faire malmener par quelqu'un qui, lui, est en infraction. Et vous devez vous en aller, vous devez vous soumettre à cette personne, ça devient complètement déséquilibré. C'est plus dans l'ordre des choses, c'est plus naturel. pendant de nombreuses années, j'ai contrôlé beaucoup de chasseurs qui sont armés. J'ai rarement eu de problème, quelques heures comme ça, mais j'en suis rarement venu aux mains. Et de plus en plus, on s'aperçoit que les tensions sont plus vives. Et on s'aperçoit que même dans nos campagnes, il peut y avoir de la violence, il peut y avoir des gens qui résistent aux forces de police. Peut-être on arrive aussi à un stade où il y a peut-être plus d'argent en jeu, il y a peut-être plus d'enjeux, justement. J'ai dû mettre la main sur la crosse de mon arme plusieurs fois. Je pense à une autre affaire, c'était des chasseurs qui couraient, si on peut dire, mais ils suivaient des animaux avec leur voiture, et puis se sentant pris, au moment où ils s'arrêtent, eh ben, ils descendent les deux, ces deux frangins, un peu costauds, enfin, en tout cas nettement plus costauds que moi, et puis qui arrivent pour me casser, on les voit bien déterminés à me casser la figure, alors je suis obligé de faire quelques pas en arrière, et puis pour ne pas me faire prendre une raclée, me faire taper dessus, je suis obligé de mettre la main sur mon ceinturon. Voilà, j'espère que j'aurais pas eu besoin de la sortir, mais cette arme, mais à un moment donné, force doit rester à la loi, donc constater nos infractions, et leur dire, mais ce coup-là, si vous avancez, moi je vais me défendre. Notre monde agricole est en train de dire il faut désarmer les gens de l'OFB parce qu'ils ont des armes à la ceinture. Ils font les malins, il faut les désarmer. Et on en est là aujourd'hui. Moi, à ma connaissance, on n'a jamais utilisé nos armes dans un autre cadre que de la légitime défense. On est un corps de police. Est-ce qu'ils ont demandé la même chose à la gendarmerie ou à la police nationale? Est-ce qu'on dit aux gendarmes on ne veut plus vous voir avec vos ceintures, vous faites les cow-boys au bord de la route? L'OFB est devenu le poil à gratter de notre agriculture, quelque part. On est les seuls à aller les contrôler, à aller les surveiller et les verbaliser, à les contraindre parfois quand on a le devoir de le faire et quand il y a besoin de le faire. Donc, on est vraiment une gêne pour eux. Et dans les dernières manifestations des agriculteurs, il y a eu quand même en France 32 établissements qui ont été atteints, incendiés, tagués, détruits, cassés, etc. À l'époque où l'eau devenait vraiment craignos, nos rivières devenaient vraiment sales, devenaient vraiment polluées, je me suis un peu investi, peut-être un peu plus que d'autres, autant d'ailleurs à titre personnel qu'à titre professionnel. Parce qu'à titre personnel aussi, j'habite au bord de l'eau, et de voir cette rivière se dégrader de plus en plus, j'ai voulu manifester mon mécontentement en placardant quelques affiches dans la nature autour de chez moi. Et ces affiches disaient clairement: notre agriculture est en train de nous tuer. Arrêtons de polluer notre rivière. Alors, ça a été une maladresse, parce qu'en effet, j'ai mélangé mes missions professionnelles et mes convictions personnelles. Mais c'est comme ça, moi, ma vie, c'était mon métier, d'accord, mais c'est surtout ma vie. Je suis un convaincu de que si on ne sauve pas l'environnement, on est mort. En 2014, j'ai ramassé, là, au bord de l'eau, dans le Dessoubre, des brouettes de poissons qui crevaient dans la rivière. Un Noël, j'avais pendu un sapin avec des poissons crevés, là, pour bien dénoncer cette pollution, pour bien la montrer. Donc les agriculteurs, ils m'ont harcelé. Le président de la Chambre d'agriculture de l'époque était dans le bureau ou était au téléphone avec mon chef de service tous les jours pour lui dire « il faut qu'il enlève ses pancartes, il faut qu'il arrête de nous critiquer, de nous traiter de pollueurs, etc. etc. » C'était tous les jours. Le président de la Chambre d'agriculture qui venait voir mon chef de service lui dire « faut qu'il arrête ses conneries, faut qu'il enlève ses pancartes », a insisté jusqu'à ce que mon chef de service, par la pression des agriculteurs, m'enlève mon arme de service. Il m'a dit « tu mets ton arme au coffre au bureau et plus de mission de police pour toi, tu arrêtes tes missions de police pendant quelques jours ». Ça a été jusque-là, c'était en 2014. Fallait que j'arrête de relever la pollution, fallait que j'arrête de parler de pollution. J'étais quand même un agent de l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Donc c'était quand même aller très très loin. Coller quelques affiches, c'était moi pour dénoncer leur technique, pour que les gens sachent d'où venait cette pollution. Ça visait forcément les agriculteurs, mais cette pollution, elle vient de là. Donc on ne pouvait pas être plus objectif. La pollution, elle est à 90-95% d'origine agricole. Elle est récurrente, la pollution, par les nitrates. C'est tout le temps, c'est sans arrêt, c'est tous les ans, on en remet et on en met partout. Les gens voient une eau transparente. Oh, ils disent, la rivière, elle est super chez vous, il n'y a pas de pollution. Alors, l'eau, elle est toujours transparente, comme de l'eau de roche. En revanche, elle est chargée de nitrates. Donc, elle n'est pas meilleure. Au contraire, elle fait pousser les algues, elle fait pousser l'herbe dans la rivière. En fait, cette eau, elle est polluée, quoi. Elle n'est pas belle du tout. Parce que les algues se greffent sur les cailloux, sur les fonds des rivières, poussent là-dessus et, pour pousser, bien sûr, consomment de l'oxygène. Alors, non seulement toutes les larves aquatiques n'ont plus la lumière, puisqu'elles sont recouvertes d'algues, mais elles n'ont plus non plus l'oxygène qui leur sont nécessaires pour respirer, pour se développer. Et de là, eh ben, on tue absolument toutes ces larves et on tue absolument tout. On a beaucoup parlé des algues vertes en Bretagne, mais on a les mêmes algues vertes en Franche-Comté qui sont dues aux nitrates. Les agriculteurs, il ne faudrait pas tous les mettre dans le même panier aussi. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a une frange parmi eux, qui ne sont malheureusement pas les plus nombreux, qui sont les plus modérés, et qui sont les plus conscients en tout cas que leur sol se dégrade, leurs sols sont de moins en moins fertiles, leurs sols sont de plus en plus tassés, parce qu'ils ont des engins gigantesques, etc. Eh bien, ils continuent dans ce même système parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont dans ce système où on a emprunté, on a fait des grands bâtiments, on a des gros tracteurs, on a du gros matériel, et il faut le payer. L'État, parce que c'est quand même les directives de l'État, tout ça, puisqu'on a un établissement public, nous dit aujourd'hui, ben non, ça ne faut pas faire. Là, dernièrement, on a dit, mais le monde agricole, il ne faut plus y toucher. Sur des épandages de lisier, on nous a dit, mais non, là, tu ne peux pas y aller, tu n'as pas la compétence, ou alors tu es tout seul, ou alors on m'a dit, non, faut pas. Et puis, comme je suppose, tous les établissements publics ont un cadre général d'activité. On prévoit souvent des missions. On a déjà un cadre. Certaines missions sont déjà définies à l'avance. Et on dit, ben, cette année, vous irez faire tant de missions de police de la chasse, tant de missions de police de la pêche, tant de missions de police biodiversité, agriculture, etc. Ce cadre, il est défini par les gens qui dirigent l'établissement. Donc, on ne peut pas sortir de ce cadre. Une fois que vous avez fait 10% de missions de police vers l'agriculture, eh ben, on vous dit, mais ce coup-là, monsieur, tu vas faire autre chose, il ne faut plus y aller. Parce qu'on est des bons fonctionnaires, et quand on est bon fonctionnaire, on dit « oui, chef », jusqu'au sommet de la chaîne, hein, de la hiérarchie, hein, faut pas croire. Hein. Donc au bout d'un moment, je me suis aperçu qu'à l'office, moi, on me faisait bosser pour remplir des statistiques, pour être dans un moule, quoi. Constat d'impuissance et d'inefficacité, eh ben, il se traduit par un ras-le-bol un peu des collègues souvent. Et puis chez moi, ben, il s'est traduit tout simplement par l'abandon. J'ai quitté l'OFB. J'ai démissionné de l'OFB en juillet 2023. Alors je fais des travaux sylvicoles, je plante des arbres, je débroussaille, je fais un petit peu de bûcheronnage. Alors, j'étais fonctionnaire, j'avais cette garantie de salaire, de revenus. J'ai beaucoup perdu, mais je rentrais fatigué. Gratter du papier quand on sait que ça n'avance à pas grand-chose, c'est parfois usant. Parce qu'une procédure pénale, il y a 20 ans, c'était une petite place. Aujourd'hui, il faut écrire des pavés. Comme disait mon chef il y a quelques années, dans un classeur, on mettait 100 procédures, puis aujourd'hui, on en met 20. Et moi, ça m'a beaucoup usé. Aujourd'hui, je prends une tronçonneuse toute la journée, le soir, je suis pas fatigué. J'ai un jardin trop grand pour moi et j'ai des poules, j'ai des lapins, j'ai des animaux et je vis comme ça. Je mange très peu de viande, je suis dépendant de pas grand monde finalement. Je vis avec des fringues, des godasses que je récupère. Depuis que j'ai quitté l'office, c'est vrai que j'ai des périodes où je me pose encore la question. Faut-il continuer de se battre ? J'ai un peu baissé les bras, je perds un peu espoir. Et la mission de police, elle m'a valu d'avoir des ennemis. Elle m'a valu d'avoir des gens qui me causaient plus, qui me disaient pas bonjour. Il y a des gens qui m'ont dit ouvertement, oh, qu'est-ce que t'as bien fait de t'en aller ? Tu viendras plus nous embêter. Mes convictions sont restées les mêmes de toute façon. J'ai zéro regret d'être parti de l'OFB parce que mes collègues qui me visitent me font bien voir que c'est pire encore, qu'on brasse encore plus de papier pour pas grand-chose, qu'on est encore moins sur le terrain, qu'on écoute notre hiérarchie. Hein, on dit « oui chef » et encore « oui chef ». Et le grand grand chef là-haut, s'il n'a pas conscience et puis s'il n'a pas envie de plus d'environnement et puis qu'on continue de dire « oui chef », eh ben on va toujours dans le même sens. Donc j'ai zéro regret. Vraiment zéro regret.
C'était un policier dans la nature, un reportage de Johan Giuswick. Une émission réalisée par Anne-Laure Chanel. Merci à Stéphane Regazzoni et à Marion Roch. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Et notre stagiaire, c'est Luce Mourant.
Bed is hardly shown. Thank you.
Chers artistes utopiques,
celui ou celle qui trouvera ce carnet
ne sera pas hors de danger.
Dès qu'on entend les mots « journal intime », ça sent l'encre turquoise et le repli sur soi. Mais si on crochète les verrous dorés, on trouve un trésor. Le grand 8 émotionnel de nos vies ordinaires.
Mercredi 29 juillet, première rencontre avec les Khmers rouges.
Il n'y a personne qui a des sentiments aussi violents que les miens.
J'ai 17 ans et j'écris pour changer le monde.
Le journal de ma vie, une série Les Pieds sur Terre d'Adila Benedjaizou et Clémence Gross. Retrouvez tous les épisodes sur le site de France Culture et l'application Radio France.